Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Quels sont les dessins animés qui ont marqué votre enfance ? Quand j'ai posé la question autour de moi, j'ai été très surprise d'entendre en grande majorité des noms de dessins animés japonais. Goldorak, Jeanne et Serge, Princesse Sarah, Nicky Larson, Albator et d'autres. Parce que moi, à mon époque, quand j'allumais la télévision, je tombais très très rarement sur ces dessins animés. Et pourtant, quelques années avant, ils dominaient le petit écran. Alors pour ce dernier épisode de notre série Club Dessins Animés, on va faire un petit retour en arrière et essayer de comprendre qu'est-ce qui explique que les enfants nés dans les années 60, 70, même 80 ont grandi avec les dessins animés japonais et n'avaient pratiquement que ça sur leur écran de télévision. Pourquoi le secteur du dessin animé en France a longtemps été dominé par des productions japonaises ? Pour répondre, j'ai interrogé le spécialiste français des mangas et des animés japonais, le journaliste Sébastien Abdelhamid. Je suis Jeanne Serrin, bienvenue dans Club Dessins Animés. Bonjour Sébastien Abdelhamid.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et auteur d'un livre qui s'appelle Japanime, coécrit avec Clément Cusseau aux éditions Webedia Books et qui parle justement des dessins animés japonais. J'avais d'abord envie de vous demander, est-ce que le dessin animé japonais comme on le connaît avec Goldorak, Nicky Larson, etc., il est forcément lié au manga, ou est-ce que ça peut être aussi décorrélé ?
Alors, c'est une question super intéressante parce que j'ai envie de dire oui et en même temps non. Parce qu'en France, on a d'abord connu les animés, donc les dessins animés japonais, avant de connaître le manga, puisque l'essor et la popularisation s'est fait d'abord par les versions animées. Maintenant, il est vrai que beaucoup de ces grands succès sont d'abord des mangas adaptés par la suite en animé. Mais c'est pour ça qu'en France, on a une histoire un petit peu particulière quand on pense notamment que ce soit Goldorak, Nicky Larson, Dragon Ball, pour ne citer qu'eux, on a d'abord eu la version animée. Le manga est apparu assez tard.
Assez tard, c'est-à-dire ?
On retrouve des parutions de premiers mangas un petit peu édités de manière artisanale ou dans des fanzines, etc. On a aussi Akira, par exemple, qui a été édité, mais sous forme de fascicules, en couleur, de manière... c'était pas vraiment, à proprement parler, un manga comme on le connaît aujourd'hui. Dragon Ball a été un des premiers mangas édités à connaître un vrai succès, mais c'était après l'animé. On a eu toute cette vague-là, Ranma 1,5, etc. C'est vraiment là où il y a un début, mais c'est après l'explosion des animés japonais, notamment dans le Club Dorothée, mais pas que. C'est là où on va connaître une distribution et une édition du manga qui va vraiment s'accroître.
Comment les premiers animés japonais arrivent en France ?
Alors, il faut bien distinguer l'animation japonaise, elle n'arrive pas à la télévision d'abord, c'est-à-dire qu'on connaît déjà quelques films au cinéma, ci et là. Pour moi, à mon sens, le premier marqueur important, c'est Goldorak. Albator, Goldorak, c'est fin 70, début 80, va voir apparaître en France des animés, et puis après, ça va ne faire que croître. Le premier facteur, j'ai envie de dire, c'est le facteur coût. Pourquoi on a connu une vague d'animés japonais sur les écrans français dans les années 80 puis 90, c'était que c'était pas cher comparé au coût de l'animation française / européenne ou même américaine. Donc c'est d'abord un concours de circonstances, c'est d'abord évidemment le prix. Les animés coûtaient moins cher et on savait pas vraiment ce qu'on achetait ni ce qu'on diffusait. Ce qu'on disait, c'est qu'on achetait au kilo à l'époque. Donc on a eu beaucoup d'animés diffusés dans des émissions pour enfants qui n'étaient pas à la base à destination des enfants.
Oui, ça, on va y revenir. Et justement, il y a un acteur important dans cette diffusion, c'est le Club Dorothée. Est-ce qu'on peut expliquer le rôle qu'a eu le Club Dorothée dans cette émergence ?
Oui, bien sûr. Alors, vraiment, le Club Dorothée n'est pas le premier diffuseur. Hein. Avant, Dorothée était sur une autre chaîne que TF1, mais il y avait de l'animé sur la 5, mais le déclin de la 5 va permettre au Club Dorothée de récupérer le catalogue de la 5. Donc, il y a vraiment tout un contexte historique télévisuel qui fait que le Club Dorothée va vraiment être porteur des animés japonais. C'était extrêmement important, le Club Dorothée, parce que le temps d'antenne, déjà, était incroyable. Il faut savoir que quand TF1 ramène Dorothée sur la chaîne privée, c'est pour lui offrir un temps d'antenne qu'elle n'a pas sur Antenne 2 à l'époque. Et ça va tout changer, c'est-à-dire que les enfants, comme moi, hein, on va être véritablement bercés par le Club Dorothée le matin, l'après-midi, le samedi, le mercredi, tous les jours. C'était parfois jusqu'à 10, 11 heures d'antenne par jour, ce qui est énorme, c'est arrivé. Et dans ce programme destiné à la jeunesse, eh bien encore une fois, le catalogue de la 5 qui contenait énormément d'animations japonaises étant racheté par le Club Dorothée et aussi un catalogue qui se sont eux-mêmes appropriés et achetés au préalable, eh bien, tout cumulé, ça faisait énormément d'animations japonaises. Et donc, ils diffusaient. Pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que énormément de générations ont découvert l'animation japonaise via le Club Dorothée. C'est pour ça que c'est quelque chose qui cristallise toujours l'attention et les conversations quand on parle d'animation japonaise. En France, en tout cas dans les années 90, Dorothée a joué un rôle prépondérant là-dedans. C'est un petit peu l'icône et le visage de ce que ça représente pour plusieurs générations. Maintenant, encore une fois, je le rappelle, il n'y avait pas que le Club Dorothée, mais évidemment, c'est une pierre angulaire pour la France. On a le Club Dorothée, comme je le disais, qui reprend tout ça, donc qui va cannibaliser un petit peu tout ça. Et puis, on a l'émergence de différents programmes jeunesse. On a France 3, par la suite, qui va proposer un programme pour contrer tout cela, qui s'appellera les Minicums, donc avec des petites marionnettes, etc. Mais qui ne va pas proposer tant d'animés japonais que ça, parce qu'il y a le succès du Club Dorothée, mais il y a aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire que le revers de la médaille, c'est qu'on va politiquement et dans les foyers français s'insurger un petit peu contre l'animation japonaise à la télévision. Une des raisons, c'est parce que, comme je le disais au préalable, c'est que certains programmes n'étaient pas du tout à destination des enfants. Donc effectivement, ça peut paraître parfois un peu violent, des scènes un peu limites, un peu dénudées, etc. Donc évidemment, sorti de son contexte, ça peut choquer. C'est pour ça que d'ailleurs, certains comédiens de doublage se sont un peu insurgés dans certaines séries pour faire une sorte de censure par le doublage pour adoucir le propos de l'animé, puisque en fait, on ne comprenait pas à l'époque forcément ce qu'on doublait.
Oui, justement, j'aimerais qu'on revienne sur cette censure. Qu'est-ce qui, à l'époque, choquait ? Est-ce que tu peux donner des exemples ? Qu'est-ce qui a pu être modifié par justement ces doubleurs ?
Les deux plus grands exemples, c'est Nicky Larson et Ken le Survivant. Donc pour l'un, Nicky Larson, c'était des scènes avec des demoiselles où il allait dans un love hotel. Le love hotel a été remplacé en français par les restaurants végétariens, donc on ne comprenait pas vraiment pourquoi il allait toujours manger dans un restaurant végétarien. Donc voilà, ce genre de choses. Et dans Ken le Survivant, c'était et même dans Nicky Larson, c'était, on avait des comédiens de doublage extrêmement talentueux et qui allaient faire un travail très grandiloquent sur les doublages pour atténuer la violence. Donc c'était vraiment une censure par le doublage, mais tournée vers l'absurde. Donc on avait des voix complètement folles. Évidemment, tous les gens de ma génération se souviennent de Mammouth dans Nicky Larson, ou vraiment des voix grotesques, mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'était voulu. En fait, le Japon et nous occidentaux, on n'a pas la même culture, donc il y a des choses qui sont vraiment différentes. Alors parfois, il y a des choses qui sont très choquantes pour nous, qui ne le sont pas pour eux.
Oui, par exemple, l'hypersexualisation des corps féminins aussi, ça a été extrêmement problématique. Maintenant, quand on regarde ça, on se demande comment on a pu montrer ça aussi à des enfants, quoi.
Oui, complètement. On parlait tout à l'heure des animés qui n'étaient n'était pas forcément sur le Club Dorothée, mais par exemple, si on prend Cobra, qui n'est pas du tout une œuvre destinée aux enfants. Moi, je l'ai découvert quand j'étais enfant, donc on a des femmes qui sont quand même assez dénudées, etc.
Alors, comme ça, on est le 25 décembre demain. On dit, petit Papa Noël, ça te dirait de passer me voir? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Tu sais, comme d'hab, j'ai pas besoin de grand-chose. Un joli petit brin de fille en bikini. Correction, sans bikini.
Bah, bien sûr. On peut comprendre que ça puisse choquer qu'on diffuse ça à des enfants de 6, 7 ans, 8 ans ou même plus. Il y a deux choses. Il y a déjà une perception culturelle différente, mais qui plus est, encore une fois, quand on diffuse une œuvre qui n'est pas destinée aux enfants, ben le fossé est encore plus grand. Donc, évidemment, c'est choquant. On a même, pour revenir dans quelque chose qui était plus à destination de la jeunesse, on peut prendre Dragon Ball ou le personnage de Tortue Géniale qui est assez emblématique et aussi symptomatique de ce dont on parle. Sa relation avec Bulma, etc., sur le fait de voir sa culotte, hein, entre autres, c'est quelque chose qui, évidemment, était un peu compliqué à expliquer et même à comprendre. Donc aujourd'hui encore, il y a encore cette perception qui est vraiment, vraiment, vraiment différente.
Et alors, avec l'arrivée de ces animés japonais, il y a un genre nouveau qui arrive en France, c'est le shonen. Est-ce qu'on peut dresser des caractéristiques communes du genre, en fait, du shonen, qui se retrouvent dans ces animés-là et qui ont pu, en fait, plaire au public français?
Alors, le shonen, c'est un genre qui existe déjà, hein, qui est une catégorie de manga et d'anime, c'est donc destiné aux jeunes garçons adolescents. On va dire, voilà. Le shonen a des codes, le type, le genre shonen a des codes, donc l'abnégation, le don de soi, le pardon, l'amitié, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans des œuvres de Dragon Ball à Naruto à One Piece. C'est très codifié, donc c'est souvent un voyage initiatique, hein, et c'est aussi un enfant qui devient adolescent, qui devient adulte, et voilà, et donc il est confronté à toutes sortes de problématiques. Ça, c'est quelque chose qui est très populaire, mais ce n'est pas le seul. Le manga, comme l'animation japonaise, a cette faculté à être pluriel et extrêmement intéressant en ce sens, car il permet d'avoir et de traiter des thématiques extrêmement variées. C'est-à-dire qu'on peut avoir du sport, on peut avoir quelque chose qui traite du handicap, qui traite du harcèlement, qui va être super léger, qui va être super grave. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au même titre que le cinéma, et j'ai envie de dire peut-être même que la variété des thématiques est encore plus large que le cinéma.
Et je me demandais également comment au Japon ça avait été perçu que tous ces animés aient un grand succès en France. Ça a permis de développer d'autres choses et de créer une collaboration, en tout cas quelque chose qui s'est tenu au fil des années.
Alors c'est très particulier parce que le premier but du Japon quand ils produisent du manga ou de l'animé, c'est pour le Japon. Encore aujourd'hui, ils ne pensent pas à l'international. Donc c'est pour ça que c'était si peu cher à la base, parce qu'ils se sont dit « Ah bah ok, ça intéresse des gens, allons-y ». Eux, ils ont déjà rentabilisé maintes et maintes fois chez eux, ça a déjà été diffusé ou c'est en cours de diffusion et il n'y a pas de souci économique là-dessus, c'est rentabilisé, c'est payé, c'est que du bonus. Donc de base, ils n'étaient pas en fait très regardants. C'est pour ça qu'on a eu ce genre de doublage qui aujourd'hui n'est plus possible d'ailleurs. Il faut le dire, les doublages dont on parlait sur Nicky Larson et Ken le Survivant, aujourd'hui, c'est impossible de faire cela.
Parce qu'ils sont beaucoup plus regardants
bien
sur
sûr.
Ce qui est...
Puisque oui. À l'époque, en fait, ils ne savaient pas ce qui se passait. Même les génériques, ils n'étaient pas au courant. Quand ils sont aperçus qu'en fait, on a dénaturé les œuvres, ça a été un gros scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je travaille dans le monde de l'animation et du manga, c'est quelque chose qui est très cadré, très strict. À titre de comparaison, je travaille également avec des gros studios hollywoodiens, que ce soit de films ou d'animation. Eh bien, c'est sans commune mesure. Les ayants droit japonais sont vraiment très stricts. Parce qu'ils savent aussi qu'on a fait n'importe quoi et qu'aujourd'hui, leurs œuvres s'exportent. Donc la relation aujourd'hui sur le fait de s'exporter est différente, même si encore une fois, la vocation première, c'est de produire pour le Japon.
Quelle influence les dessins animés japonais ont eu sur une production française, sur des producteurs, réalisateurs qui se mettent dans la lignée de ces dessins animés-là ?
Bah, y a tout un tas de choses qu'on peut citer. Je pense que l'influence, elle a été déjà mondiale, c'est important. Même si les États-Unis ont eu un train de retard par rapport à nous sur, on va dire, les licences fleuves, etc. Mais si on prend des films comme Matrix, par exemple, il y a énormément d'influence dedans, notamment Ghost in the Shell. C'est incroyable. Il y a énormément de on peut prendre dernièrement Creed 3 où Michael B. Jordan parlait du fait que les combats étaient inspirés de ceux de Dragon Ball, de Naruto. Donc c'est une influence aujourd'hui qui c'est vraiment ça serait dommage de pas assimiler qu'aujourd'hui l'animation japonaise et le manga, je fais toujours le parallèle entre les deux parce que évidemment c'est connexe. Ça serait dommage de ne pas assimiler qu'ils font partie aujourd'hui de notre culture globale, de notre socle culturel, au même titre que le cinéma. Aujourd'hui, il faut compter avec l'animation japonaise. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, parce que ce qu'on a décrit dans les années 80, 90 comme un phénomène ne l'est pas. Puisque aujourd'hui, on est 30 ans après, voire plus, et on a toujours une consommation accrue. On a des œuvres qui sont incroyables et qui influence génération après génération.
Aujourd'hui, maintenant, pour la génération d'enfants, est-ce qu'il reste encore des animés japonais et est-ce qu'il y a autant d'influence qu'il y a pu avoir dans les années 90 ?
Alors aujourd'hui, c'est vraiment différent, tout simplement parce que les programmes jeunesse à la télévision n'existent quasiment plus de la manière dont ils existaient auparavant. Il y a des quotas de production, que ce soit française, européenne, etc. Dans le même temps, sont développées des plateformes spécialisées et la consommation, de toute manière, n'est plus forcément télévisuel. Malgré tout, même si aujourd'hui, je pense que l'animé n'est plus forcément distillé de la même manière à la jeunesse et aux enfants, eh bien on voit que toutes les générations, en fait, même les jeunes d'aujourd'hui, viennent naturellement vers l'animation japonaise parce que c'est ce qui marche le plus. Aujourd'hui, on peut parler de l'attaque des titans avec une personne de 30-40 ans comme avec une personne de 15 ans. Et j'ai envie de dire que ces jeunes générations qui n'ont pas connu le Club Dorothée, donc la diffusion massive à la télévision, sont même extrêmement curieuses de découvrir encore plus. Donc évidemment, ils regardent ce qui se fait aujourd'hui, donc du Demon Slayer, du My Hero Academia, du One Piece, etc. Mais on peut voir que la consommation d'animés un petit peu plus anciens est toujours très importante par les jeunes générations. Je suis vraiment, vraiment pas inquiet pour le secteur de l'animation japonaise.
C'était le dernier épisode de la série Club Dessin Animé. Merci de l'avoir écouté pendant ce mois d'août. Si vous en avez loupé un ou si vous voulez les réécouter ou les partager, tous les épisodes restent disponibles sur le site de 20 minutes et sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de rechercher L'été dans vos oreilles, le podcast des séries d'été de 20 minutes. En attendant l'été prochain et d'autres séries, vous pouvez écouter le podcast d'actualité de 20 minutes qui revient dès la rentrée et qui s'appelle Minute Papillon. À très vite et d'ici là, bonne écoute des autres podcasts de 20 minutes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.